retrouvés après un temps d'absence où mon ministère m'amène dans des églises de la région et puis en même temps aussi je reviens d'Outre-Méditerranée. J'ai un petit temps d'adaptation, hein, vous m'excuserez. Là, je reviens de Kabylie, où j'étais samedi dernier pour une prédication, perdue dans les montagnes, et où les pluies diluviennes ont fait céder un pont, et on va comme ça au culte dans le village. Il faut s'arrêter juste avant et finir le chemin à pied. Voilà, personne râle, personne rouspète. Voilà. Ça nous apprend aussi un peu à vivre avec nos techniques hyper sophistiquées, qui, quand elles tombent en panne, on n'arrête pas de râler parce qu'on trouve que c'est normal que tout fonctionne. Voilà, donc j'aimerais, avec vous, nous bousculer un petit peu. Vous êtes prêts à être bousculés ? Alors, ce n'est pas moi qui vous bouscule, c'est la parole de Dieu, et c'est plus particulièrement l'apôtre Jean. Et l'apôtre Jean a ceci de particulier, c'est qu'il n'est jamais dans la nuance. Jamais. Il n'y a pas de clair-obscur chez Jean. C'est ou blanc ou noir. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ou vous aimez ou vous haïssez. Vous êtes dans la vérité, vous êtes dans le mensonge. C'est Jean. Mais c'est lui aussi qui était appelé le disciple que Jésus aimait, tout simplement parce qu'il avait perçu, peut-être mieux que les autres, cet amour que Dieu lui portait. Donc c'est quelqu'un qui, tout en étant très binaire, est aussi conscient qu'il est un homme avec ses faiblesses, avec ses défauts, avec ses chutes à répétition, quelqu'un qui est aimé de Dieu. C'est difficile, hein, à la fois d'être conscient de ce que nous sommes et d'être en face de cette réalité de qui nous sommes et en même temps de pouvoir compter sur la grâce de Dieu. Je me suis toujours demandé comment l'apôtre Paul pouvait, de manière authentique et sincère, dire qu'il était le plus grand pécheur que la terre ait porté. Ce n'est pas simplement une formule, c'est quelque chose vraiment de réel. L'apôtre Paul vivait constamment avec en écho dans son esprit et dans sa conscience les cris de ses enfants, de ses femmes, de ses hommes qu'il a emmenés en prison. Il vivait cette image, avec cette réalité, et il vivait avec ça toute sa vie. Et pourtant, qui mieux que Paul a parlé de la grâce de Dieu ? Qui mieux que lui a affirmé avec force, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Extraordinaire. Ce double regard, à la fois authentique sur sa réalité humaine, son état de pécheur, et en même temps, convaincu profondément que la grâce de Dieu a surabondé là où son péché a abondé. Les deux choses, en même temps. Les deux choses, en même temps. Alors, si je fais cette introduction... En fait, c'est un petit peu pour prendre les précautions avant que je vous bouscule et que vous ayez en tête que si je nous bouscule, il faudra aussi avoir en esprit, et nous y reviendrons un peu à la fin, que dans mes propos, il y a toujours en arrière-plan la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, la fidélité de Dieu dans la certitude, en prenant conscience de notre faiblesse, il nous aime. Il ne nous lâche pas. Il nous tient. Voilà, ces précautions d'usage étant faites, je vais vous amener à faire un petit test. Alors, nous ne sommes pas encore en été, mais vous savez que dans certaines des revues, des mots fléchés ou bien des magazines, vous avez à la fin. Alors, il y a longtemps que je n'ai pas lu ces magazines. Ma femme, Marie, c'était elle qui achetait. Elle n'en achète plus, mais dans les sudoku maintenant. Mais à la fin de ces livrets, il y avait souvent un petit test. Vous avez jamais connaissez ? Non ? Petit test. Non, je suis le seul à... Ça, c'est le problème quand on veut avoir une illustration que personne ne connaît. Il y a un moment pour le prédicateur de solitude. C'est une série de questions, ce petit test. Et à chaque réponse, on vous donne une note. Et l'addition des points vous donne donc une note. Et suivant le calcul et le thème, vous êtes un bon mari. Bon, là, c'est moi, j'ai bien sûr un à chaque fois. Une bonne épouse. Bon, là, c'est... Non, non, tu as 20 sur 20 aussi, Myriam, t'inquiète. Vous êtes quelqu'un de posé. Vous êtes fin psychologue, etc. Donc, ce matin, je vous propose un test. Et l'apôtre Jean, plutôt, nous propose un test. Un test d'une toute autre nature, de se citer plus haut, est d'une importance immense pour notre foi. Ce test concerne notre relation au Christ, et plus particulièrement à la connaissance que nous avons de lui. Et ma question, qui va paraître en décalage face à une telle assemblée, est la suivante. Connaissons-nous vraiment le Christ ? Nous savons beaucoup de choses sur le Seigneur. Nous savons qu'il est le Fils de Dieu. Nous savons qu'il est notre chemin, qu'il est venu guérir et sauver ceux qui étaient perdus en mourant sur la croix à notre place et qu'il est ressuscité le troisième jour. Nous savons qu'il est à la droite du Père, qu'il intercède pour nous et qu'un jour, il reviendra en gloire pour nous emmener avec lui et jouir d'une vie éternelle dans sa présence. Ça va jusque-là ? C'est bon, vous avez coché toutes les cases ? Sinon, vous allez voir votre pasteur. Hein ? Si vous avez coché toutes les cases, c'est que votre connaissance biblique est bonne. Vous êtes dans la bonne orthodoxie. Mais à ces réponses, nous ne répondons pas à la question de Jean. Connaissez-vous bien le Christ ? Êtes-vous bien sûr de le connaître ? Et pour nous aider à répondre à cette question, l'apôtre va nous demander de répondre à deux tests. Le premier est un test moral et le deuxième est un test social. Et je vous propose donc de lire le passage qui est affiché. Et Jean nous dit ceci avec son style bien particulier. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Quand elles sont venues, ça y est, Nordine, il va nous culpabiliser. Encore un serment culpabilisateur. Vivement lundi. Suivant. Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais c'est un commandement ancien, celui que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Suite. Il n'y a pas de suite. Voilà. Deux tests, un moral et un social. Test moral, tout d'abord. Comment savoir que nous connaissons le Christ ? Question de Jean. Le test est simple et clair. Voici comment nous connaissons, nous savons que nous connaissons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Et si quelqu'un dit « je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. On arrête ou on continue ? L'obéissance est le révélateur objectif de notre connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. La connaissance, une notion, me semble-t-il, en trompe-l'œil. C'est pour Jean, comme pour tous les auteurs de l'Écriture, la connaissance n'a jamais un sens d'une connaissance théorique. Elle ne se développe jamais dans l'abstraction, mais dans la profondeur d'une relation. La connaissance de Christ consiste en une relation personnelle au Christ vivant. Vous l'avez déjà entendu, ce n'est pas nouveau ce que je vous dis. Mais nous avons comme ça des formules que nous répétons sans savoir ce qu'elles contiennent. Comment est-ce que je peux avoir une relation personnelle vivante avec le Christ ? Comme je disais tout à l'heure, nous pouvons avoir toutes les connaissances théologiques et les plus élevées. Si elles ne sont pas reliées à une relation vivante de soumission et Seigneur et Sauveur, nous serons toujours un airain qui ronzonne, une cymbale qui retentit, et nous ne pourrons jamais prétendre connaître le Seigneur. L'apôtre, comme tout au début de son épître, vise particulièrement des personnes qui, dans l'Église, considéraient avoir été illuminées par la vraie connaissance. Ils pensaient avoir atteint le summum de la connaissance et de ce fait, plus rien ne pouvait les atteindre, pas même le péché. C'est pour ça qu'il dit, en fait, hein, ceux qui disent qu'ils n'ont jamais péché sont des menteurs. Peu importe leur conduite, la connaissance était en quelque sorte le moyen de salut. Et fort de cette assurance, leur incohérence morale ne les dérangeait pas le moins du monde. La connaissance était le but ultime, le moyen de salut. L'apôtre est catégorique, ce sont des menteurs et la vérité n'est pas en eux. La véritable connaissance de Christ passe par l'obéissance de sa parole. Par l'application de sa parole dans notre vie quotidienne. Sans elle, je ne connais pas le Christ et le Christ ne me connaît pas. Et Jésus ne dit rien d'autre. Lorsque peu de temps avant sa mort, il fait cette confidence à ses disciples, « Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, la marque distinctive de celui que Jésus considère comme un ami, c'est l'observance de sa parole. Alors, quand nous lisons ce verset, nous inversons les choses. pour être aimé de Christ, il faut observer sa parole. C'est comme ça que nous le comprenons. N'est-ce pas ? C'est exactement l'inverse que dit Jésus. C'est parce que nous observons sa parole que nous connaissons le Christ. Vous savez, j'avais une mère méditerranéenne, tout le monde le sait. Et les mères méditerranéennes sont en général... Comment ? Alors, on peut allonger la liste, hein, j'avais pas pensé à ça. Hein. Protectrice, possessive, et puis capable de faire du chantage affectif. Mon fils, si tu m'aimes ! Ou alors, tu ne m'aimes pas parce que tu m'as désobéi. Voilà, ça, c'était ma mère. Et on a l'impression, en comprenant ce texte, que Jésus nous fait du chantage affectif. Pas du tout cela. Il ne nous dit pas « Obéis, et je t'aimerai. » Mais parce que tu obéis, tu montres que tu m'aimes. Voyez la différence ? Elle est essentielle, importante. Jésus ne fait jamais... de chantage affectif, jamais, jamais. C'est parce que nous aimons le Christ que nous lui obéissons. C'est ma mère qui m'a éduqué. Et je vous garantis que sa fille est droite. Mais ma mère n'a jamais réussi à obtenir ce que Muriel a obtenu de moi. Et la différence, c'est qu'entre moi et Muriel, il y avait un amour particulier. La loi, l'amour, a accompli ce que la loi n'a jamais réussi à faire. Jamais. Jamais. Pour le dire autrement, le moteur de notre attachement à la parole, c'est l'amour que nous portons au Christ, nourri par l'amour qu'il nous porte. Et c'est cette relation extraordinaire, étroite, qui fait de nous ses amis. Comment être l'ami de quelqu'un avec lequel nous ne partageons pas la même pensée ? Comment être l'ami de quelqu'un avec lequel nous partageons aucun de ses centres d'intérêt ? L'obéissance à sa parole révèle que nous l'aimons. Voici au cœur du test. L'amour pour Dieu, nous dit Jean, ne s'exprime pas d'abord par un langage sentimental ou par une expérience mystique, telle que certains lecteurs le prétendaient, mais par l'obéissance. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Jean 14, 15. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme moi-même. J'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Jean 15, 10. L'attachement à la parole qui se manifeste par une soumission à cette parole, voilà un des critères qui définissent ceux qui connaissent vraiment le Christ. Deux questions se posent à nous. Vous êtes toujours avec moi ? Quel rapport entretenons-nous avec la parole de Dieu ?
Ça, j'ai l'impression d'entrer dans un sujet un petit peu délicat, là. Hein ?
Quel rapport entretenons-nous avec la parole de Dieu ? Nous avons dit que sans elle, nous ne pouvons pas connaître la pensée de notre Seigneur et Sauveur. Sans elle, nous n'avons qu'une piètre idée de ce que le Seigneur attend de nous, de ce qu'il veut pour nous. La place qu'occupe la parole de Dieu dans notre vie est un élément important pour nous situer dans notre relation avec Dieu. Quelques exemples concrets, j'aime bien moi les exemples. Lorsque nous étions fiancés avec Muriel, je parle à des gens que les moins de 20 ans ne connaissent pas, c'est-à-dire qu'il y a plus de 40 ans, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de téléphone mobile, il n'y avait aucun réseau social. Donc, qu'avions-nous ? Le stylo et la lettre. Que faisions-nous ? J'étais étudiant à Paris à l'époque. Muriel écrivait. Nous nous écrivions. Et j'ai quelque part dans un grenier, j'allais dire dans un, ma petite fille, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis, dans un endroit tenu secret et que je ne révélerai par aucune menace, des tonnes de lettres. Imaginez un instant que Muriel m'écrit 10 lettres et me dit « Norine, est-ce que tu as lu mes lettres ?» Non. Je ne sais pas si Muriel serait là avec moi ce matin. N'est-ce pas ? Il est évident que à Paris, il y avait deux services de facteurs, le matin et l'après-midi. Et la première chose que je faisais, c'est que j'allais voir dans la boîte aux lettres, que je prenais la lettre, que je l'ouvrais, que je la lisais, que je la relisais, que je la relisais jusqu'à la suivante. Vous voyez ? Je savais que tout le monde comme toi avait compris. Exactement. Il répondait. Et Muriel faisait pareil de son côté. Aujourd'hui, nous avons des téléphones. Dès que le téléphone bip, ah, j'ai un message. On l'ouvre, on regarde. Quel que soit, quoi qu'on fasse, on interrompt ce qu'on fait. En général, on ouvre, on regarde. Vous avez un nouveau message. Et je lis le message. Dieu nous écrit. Il nous a envoyé 66 lettres. Quelquefois, c'est mastoc, hein. Et il nous dit constamment, tu as lu la lettre que je t'ai envoyée ? Non. Oui ? J'ai déjà lu. Mais moi, j'avais déjà lu 10 fois la lettre de Muriel. Je la relisais. Ces lettres d'amour que Dieu nous envoie, qui nous rappelle qui nous sommes, qui nous rappelle qui il est, qui nous rappelle ce qu'il attend de nous. Nous sommes si peu enclins parfois à lire ces lettres. La place qu'occupe la parole de Dieu dans notre vie est un élément important pour nous situer dans notre relation avec Dieu. Je sais qu'il est difficile quand on n'aime pas lire, de lire la parole. Je sais que parfois, c'est compliqué. Plusieurs pistes à cela. Vous n'aimez pas lire ? Il existe des lectures bibliques audio. Tout le temps que je passe dans la voiture à écouter France Info, je me dis, mais si je mettais juste un audio pour lire les textes bibliques. Vous n'aimez pas lire ? Partez juste avec un verset biblique le matin. Il en existe pour ça sur les sites. Un verset, c'est quand même pas long. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Et vous savez, il y a un proverbe qui dit, l'appétit vient, voilà, vous suivez, l'appétit vient en mangeant. C'est exactement pareil pour la parole de Dieu. On lit un petit peu, on continue encore. Et plus on prend cette habitude, et plus on lira. Plus on lira. Jean Ramasco, pardon Paulette, de rappeler mon ami, la dernière vidéo que j'ai de lui, que tu m'as envoyée, Marie-Claire. Qu'est-ce qu'il cite ? L'écriture. L'écriture. Il l'avait emmagasiné dans sa tête. Lorsque j'étais allongé pendant 3 semaines sans rien faire, qu'est-ce que je faisais dans ma tête ? Je révisais les textes bibliques. Comment savoir que Dieu nous aime ? Comment savoir pourquoi Dieu nous aime ? Comment savoir que je suis pardonné, que je peux me tenir dans sa présence ? Comment savoir ce qui m'attend ? Comment savoir qu'un jour il reviendra ? Si jamais je n'ouvre pas sa parole. Et nous n'avons pas à faire face à face un livre, mais à une personne. Un jour, dans une église, on lisait le psaume 23, c'était un exercice. Et un acteur extraordinaire lit le psaume 23, comme les acteurs savent le faire. J'ai entendu un acteur lire la parole de Dieu. On n'a pas trop envie après de lire après lui, n'est-ce pas ? Tellement c'est beau. Tellement c'est formidable. À la fin, l'acteur s'assied et demande à quelqu'un de la salle de lire le psaume 23. Et la personne, chrétien convaincu, se met à lire le psaume 23. Il finit. La salle était silencieuse. Il s'assied. L'acteur se lève et dit « Moi, je connais le psaume 23. Mais vous, vous connaissez le bon berger. Connaissez le bon berger. » Dans sa lecture, il montrait cette relation personnelle, intense avec le Seigneur. Il n'était pas en face de mots, il n'était pas en face d'une page, il n'était pas en face d'un livre, il était en face du Dieu créateur. Il était en face de Jésus-Christ, son Seigneur et son Sauveur. Cette parole nourrit notre pensée, nos actes. Tant de choses envahissent nos oreilles, tant de choses façonnent notre pensée. Par quoi sommes-nous modelés ? Les idées dominantes d'une société du bien-être, ou la pensée de notre Seigneur qui vise pas notre bien-être, mais notre bien, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Nous en laissons-nous imprégner, imbiber, au point de nous laisser modeler par elle. La conséquence est énorme. C'est que, en fréquentant cette parole de Dieu, un amour grandira, jusqu'à parvenir à sa pleine maturité. Qu'est-ce qu'un amour ? Empreint de maturité, c'est un amour marqué par une fidélité à Dieu. Ça veut dire une fidélité qui n'est pas marquée par la chute, par la fragilité, par le péché, mais une fidélité qui n'accepte pas d'être séparée de son maître. Ça ne signifie pas effectivement que notre vie sera toujours conforme à la parole de Dieu. Jean a dit quelques instants plus tôt que celui qui prétend n'être coupable d'aucun péché, celui-ci est dans l'illusion. Personne ne peut prétendre à être en parfaite cohérence avec la parole de Dieu. Mais nous nous efforcerons, selon la capacité de la faiblesse humaine, de façonner notre vie dans l'obéissance à Dieu. Jamais nous nous habituerons à la désobéissance. Jamais nous nous habituerons à l'incohérence entre ce que je sais de Jésus et mon comportement. Il est tard. Très rapidement, le test social. Le deuxième test, c'est l'amour des frères. Un commandement à la fois ancien et nouveau, nous dit Jean. Ancien, car la loi déjà plaçait au cœur des relations entre Dieu et les hommes et entre les hommes eux-mêmes, l'amour comme pierre angulaire. Ancien aussi, car les lecteurs, au début de leur conversion, ont entendu parler de ce commandement, mais Jésus lui-même, en le livrant à ses disciples, parle d'un commandement nouveau. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » La nouveauté, c'est que Jésus va changer ce commandement ou le charger d'une signification plus grande. Le disciple doit aimer les autres non plus comme il s'aime lui-même, mais comme le Christ l'a aimé. Ce qui vient à dire que nous ne pourrons jamais être quittes de l'amour que nous devons à nos frères et sœurs. Cela signifie que seul le don total de soi peut nous rendre quittes de l'amour. La parabole du bon samaritain. Jésus montre que le prochain que nous devons aimer et quiconque a besoin de notre aide et de notre compassion, sans distinction de race et de situation. Si le commandement est ancien dans son énoncé, il est toujours renouvelé par sa pratique. Et Jean associe l'amour à la lumière. Cette lumière, c'est le Christ qui est amour. Aimer, c'est être en communion avec le Christ qui est lumière. Et par conséquent, en aimant, nous marchons dans la lumière. Marcher dans la lumière. En aimant. Et nous comprenons le raisonnement de l'apôtre qui, par des formules très binaires, nous rappelle qu'il n'y a pas de clair-obscur. Car amour et lumière, ténèbres et haine vont de pair. La lumière nous aide à voir juste. Un jour, je faisais les carreaux. Il m'arrive quelquefois de faire les carreaux. Pas seulement le jour de la femme. J'étais fier de moi. Aucune trace. C'est dur, hein? C'est dur. T'es d'accord avec moi? Difficile. J'ai aucune trace. Je me suis dit, quand Muriel va venir, elle va être fière de moi. Et puis Muriel est arrivée plus tard, le soleil est venu. Aïe, 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 aïe. Tout à coup, les traces sont apparues. Et les vitres qui me paraissaient si transparentes sont devenues tout à coup opaques. Et la fierté s'est transformée en embarras. La lumière éclaire. La haine fausse tout. Elle aveugle. Souvenez-vous de l'exemple de Caïn. Incapable de percevoir Abel comme Dieu le voit. Incapable de se reprendre tant il s'est éloigné de la lumière, c'est-à-dire de son Dieu, et commettra l'irréparable. Il arrive parfois que nos amertumes, que notre haine nous rendent aveugles. Fait qu'il n'y a plus, de, comme on dit, d'eau pour laver le frère ou la sœur. Il est condamné définitivement. On va lui en rejeter plus qu'il n'en faut. Nous ne percevons plus le frère et la sœur comme Christ le perçoit, parce que nous sommes aveuglés par l'amertume, par la haine. L'apôtre Paul dira quelque chose d'intéressant. N'ayez d'autres dettes à l'égard des uns et des autres que celle de l'amour. Aucune dette. Ce qui revient à dire, si nous le disons autrement, Nous avons une dette permanente à l'égard de nos frères et sœurs. Une dette permanente. Je suis, vous êtes endettés à l'égard de vos frères et sœurs. Je me trompe ? Et cette dette ne peut être payée qu'en aimant. Comme nous ne pouvons pas dire que nous connaissons vraiment le Christ si nous n'obéissons pas à ses commandements, de même nous ne pouvons pas dire que nous marchons dans la lumière si nous n'aimons pas notre frère. Le Christ, lumière du monde, venu éclairer les hommes et nous aimer au-delà de toute mesure. Voilà, pour respirer, j'ai fini mon test. Nous savons que nous connaissons le Christ. Si nous sommes non pas infaillibles, mais sans cesse des apprentis, c'est-à-dire de ceux qui jour après jour s'attachent à la parole de Christ dans une volonté de soumission et tournés vers le frère et la sœur pour être à l'école de l'amour tel que le Christ nous l'enseigne par son exemple. Vous avez réussi le test ? Alors, peut-être après, entre nous deux, tu veux bien ? Qu'est-ce que tu dis, frère ?
Je ne peux pas dire non, là.
Tu le diras après. Si nous avons raté le test, j'ai vu des têtes qui faisaient ça, je crois que je pourrais le faire également. La grâce de Dieu, j'en reviens à cela, nous permet sans cesse d'avoir des séances de rattrapage. Sans cesse, des séances de rattrapage. Et la patience du Seigneur est telle que nous avons à chaque fois l'occasion de faire un nouveau commencement dans notre lien avec la parole, dans notre rapport avec notre frère et sœur. Amen. Je t'invite.